This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason, l'histoire, ou l'histoire, et plutôt quand le jazz retrouve ses repères. Une émission préparée et proposée par Alain Vaquier et Gérard Viols. Réalisation technique, Bertrand Bruno. Et évidemment, en 79, événement non pas majeur, on pourrait presque dire anecdotique, mais l'anecdote vaut son pesant de cacahuètes, ça va être tout simplement en novembre 79, la, on peut dire presque l'assassinat, allez allons-y, de Jacques Mesrine par la police. Jacques Mesrine, l'indomptable, l'ennemi numéro un.
C'est un homme, madame. Il est emprisonné.
C'est celui que vos pères ont si bien condamné, Mesrine. En rendant la justice au nom des libertés, Mesrine. Il tournera toujours. Mesrine, jusqu'au jour où vaincu en animal blessé, Mesrine,
il tombera à terre et se laissera crever.
La seule chose que je sais, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas.
Et oui, le groupe Trust, avec cette chanson dédiée à Mesrine, et on l'entend un peu à la fin, dire tout simplement « Je suis dans une prison dont on ne s'évade pas ». Lui qui s'évadera plusieurs fois, lui qui apparaîtra bien des fois comme le Robin des Bois, l'Arsène Lupin, et qui défiera les polices de France, et d'ailleurs, mais qui était vraiment Jacques Mesrine? Eh bien, il était né à Clichy, le 28 décembre 1936, dans une famille bourgeoise. Il va couler une vie simple à la campagne où son père, qui plus tard fondera, après la Seconde Guerre mondiale, la plus grande fabrique de dentelles de France, eh bien, l'avait donc réfugié avec sa sœur par rapport à la guerre qui se produisait. Bandit atypique donc, issu de la bourgeoisie, élève intelligent, peu discipliné, turbulent, le moins que l'on puisse dire, c'est que les études, c'est pas son truc à Mesrine.
Stop him down.
gotta work for Earth for what it's worth.
Gilles Scott Heron, celui que bien des gens ont découvert il y a peu de temps maintenant, un an ou un an et demi, et qui pourtant déjà en 1979 faisait état de tout son talent avec notamment ce titre « Shut Down ». Alors, Mesrine, on va passer sur l'adolescence normale, et puis petit boulot, puis départ en Algérie pour la guerre, non pas en tant qu'appelé, mais en tant que volontaire. Parce que Mesrine a besoin d'aventure. Il va découvrir là, donc, effectivement, un goût prononcé pour l'aventure et surtout l'utilisation des armes faites pour tuer, pas pour faire joujou. Et par conséquent, il va revenir bardé de médailles parce qu'il fait partie des commandos dans le groupe où il est. Et puis, il s'ennuie à mourir à Paris. Alors, son père lui avait trouvé un boulot de modeste poste de représentant en dentelle. Vous voyez un peu ce que pouvait en faire Mesrine de ce boulot-là. Eh bien, en 61, petit cambriolage, petit larcin, rien de très sérieux, mais déjà le début d'une carrière de banditisme. En 62, première arrestation, occasionnée par un hold-up qui n'aura pas lieu, mais Mesrine va écoper quand même de 18 mois de tôle pour transport d'armes. Ce qui fait que, eh bien, tout simplement, il va considérer qu'il n'a plus rien à foutre en France. Il va partir en Espagne et il va découvrir là une prostituée, Jeanne Schneider, et tous deux décident de se refaire une vie. Ils vont donc émigrer au Québec, ce qui est très à la mode à l'époque. Et là-bas, eh bien, va commencer la carrière de Mesrine. Il va commencer par kidnapper son patron. Il va lui demander une rançon, mais malheureusement, celui-ci réussit à s'évader. Échappé rocambolesque qui s'achèvera au Texas, où la police et la justice américaine décident de les extrader au Canada, où ils vont écoper lui de 10 ans de prison et elle de 5 ans, pour l'assassinat de Madame Boutier, patronne d'un motel où il s'était réfugié pendant une époque. Eh bien, acquitté pour ce meurtre, on ne sait pas trop comment, Jacques Mesrine va malgré tout retourner en prison pour le kidnapping de son ancien employeur. Et là, eh bien, il va côtoyer les plus grands du banditisme canadien, parmi lesquels Michel Lafleur et surtout Jean-Paul Mercier. Retenez ce nom parce qu'on en reparlera un peu plus tard. Et il va se découvrir cette vocation, la défense des conditions de détention dans les QHS, quartiers de haute sécurité.
Vous comprenez, j'ai pris la haine en quartier de haute sécurité. Comprenez une chose, quand vous voyez qu'on vous défend, on vous déchire les photos de votre femme, qu'on vous supprime une lettre de votre femme, C'est dans le seul but de détruire un homme. Moi, on me l'a fait. Un type qui est enfermé dans un quartier de haute sécurité, que doit-il faire? Accepter? S'écraser? Se laisser humilier? Se laisser déshumaniser? Se laisser détruire et ne pas bouger? Moi, je n'ai pas accepté cette destruction.
Et oui, donc auprès de Jacques Mercier, eh bien, il va côtoyer le grand banditisme canadien et il va surtout apprendre ce qu'on appellera plus tard le braquage à l'américaine, c'est-à-dire que les malfaiteurs rentrent dans une banque armée jusqu'aux dents et puis tout simplement, ils vont voir le caissier, ils disent « Écoute, mon pote, le pognon, il est pour moi. Hein. » Et par conséquent, si je ne l'ai pas, ça va faire mal quand même. En conséquence de quoi, c'est une nouvelle forme de banditisme qui se développe en France. Pour l'instant, il va se partir au Venezuela avec l'argent qu'il a, avec un seul souci, revenir en France et mettre en pratique ce qu'il a appris au Canada. Alors, eh bien, il revient en France et puis là, il est quand même entouré d'une espèce d'aura de grand bandit, même si on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Mais il va commencer sa carrière d'ennemi public numéro 1, comme on l'appellera. Ça va durer 7 ans et au printemps 73, il va blesser un policier. Et il va être arrêté 3 jours plus tard. Bill Evans, le pianiste peut-être le plus intimiste, mais surtout le plus introverti pianiste. Je ne sais pas si vous avez assisté à un de ses concerts. La chance voudrait que vous ayez pu le faire. Eh bien, c'est un pianiste qui jouait tout simplement évidemment les mains sur les touches, mais la tête touchait pratiquement les touches, tellement il était empreint de sa musique et souhaitait montrer à tout le monde ce qu'il savait faire et ce qu'il avait lui à l'intérieur. Bill Evans, donc For All We Know. Alors, je vous indiquais, arrestation de Mesrin. Et Mesrin, c'est le bandit, vous savez, comme on peut l'imaginer dans les films, on va dire, avec cette espèce d'aura, du sens vraiment de l'honneur, de ce qui se fait peut-être, on va dire, beaucoup d'ego, mais malgré tout, ce besoin de se sentir supérieur à tout le monde. Et celui qui décrira le mieux Mesrin, eh bien, c'est tout simplement le commissaire Broussard, le patron de la brigade anti-gang, pour cette arrestation.
Il me dit, mais qui es-tu, toi, pour me parler de la sorte, un petit flic de quartier bon. Alors, il dit, ben non, je suis Broussard, patron d'anti-gang, etc. Broussard, le gars au collier de barbe, il dit, oui. Et là, il me dit, ben écoute, est-ce que tu serais capable de venir me chercher seul, sans armes et sans gilet pare-balles? Et je lui dis, oui, moi, je suis tout à fait... Mais toi, est-ce que tu serais capable de sortir sans armes? Oui, moi, je suis capable. Et ça, c'est tout Mesrin aussi, c'est qu'il ne peut pas se montrer inférieur à quelqu'un d'autre. Il avait un énorme cigare à la bouche, énorme. J'ai jamais vu aussi gros. Et il me dit, tout en tendant ses poignets, il me dit, tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule? Je dis, oui, effectivement, c'est pas mal. Le papa, je lui mets les menottes, bien sûr. Et il se retourne vers la jeune femme qui était à l'intérieur en me disant... Fifi, du champagne pour ces messieurs, ce sont des hommes, des vrais, etc.
Et voilà, tel qu'était Mesrin, décrit par le commissaire Broussard. Et c'est vrai que Mesrin, c'était un personnage ainsi. Et pour vous situer comment ça pouvait se passer, eh bien, lors de son procès, qui va avoir lieu donc au tribunal, déjà, on commence beaucoup à parler de lui parce qu'il est poursuivi par toutes les polices de France, évidemment. Et dès que quelqu'un se fait arrêter, et réponse faite immédiatement aux flics, ben à côté de ça, Mesrin, que dalle. Hein. Donc la police est excédée. Et lorsqu'il va être au tribunal, eh bien, il va provoquer l'événement. C'est-à-dire que là, tout Paris est là. Hein. Il y a les artistes, il y a les éditeurs, il y a les gens qui veulent avoir un bouquin avec lui, il y a les gens, les photographes, la salle est bondée. Eh bien, il arrive, il se lève quand le président l'appelle, et avant que, pratiquement, oui, presque au début de séance, il va faire ce qu'il voulait absolument faire. C'est donc le show, Mesrin. C'est-à-dire qu'il a une cravate, il la défait, il desserre le nœud. Dans cette cravate, il sort des clés et il dit au juge, voilà les clés de ma cellule. Par conséquent, voilà ce qu'on peut faire dans vos prisons qui ne sont pas du tout surveillées. Et il balance les clés au milieu de la salle en disant, je m'évaderai quand je voudrai. Et en partant de là, il s'adresse directement à Broussard, ainsi.
Je me donne 2-3 ans maximum pour m'évader. Et puis on se retrouvera, ça se passera, il n'y aura plus de champagne, Broussard. Ça se passera dans la rue. Et le premier qui tirera aura raison. C'est con, on va être obligé de se tirer sur la gueule.
Voilà comment Mesrin voyait déjà en prémonition ce qui allait lui arriver, parce qu'il obtiendra ou il acquérera après une haine de la police et du gouvernement et de l'État qui fera en sorte que ennemi numéro un, eh ben, il le sera vraiment de A jusqu'à Z. Alors après ceci, il va commencer à penser aux évasions. Et en juin, évasion spectaculaire au tribunal de Compiègne, où là, qui autre que lui aurait pu faire ça? Il va tout simplement prendre le juge en otage et il va se barrer avec le juge sous le bras, si on peut dire. Et par conséquent, c'était ça, Mesrin. Mais il faut savoir aussi que c'était le bandit au grand cœur. En effet, il avait rencontré donc, au Canada une compagne qui, à l'époque, devait avoir 19 ou 20 ans. Il en a déjà 36, lui. Mais il l'avait fait venir en France dans sa cavale et puis il considérait qu'il devait lui apporter le gîte, le couvert et la sécurité. Manque de peau, eh bien, cette pauvre fille, elle le suit, elle le suit partout dans toutes ses aventures. Quoi qu'il fasse, elle est toujours avec lui et elle se fait gauler quand même, elle se fait serrer par la police. Et par conséquent, elle s'appelle Joyce, il appelait sa Canadienne ainsi. Et il va savoir que dans les lois, parce que c'était un garçon très intelligent, au Canada, quand on avait cette particularité d'avoir été serré en France, on pouvait bénéficier d'un asile, on va dire, judiciaire. Et par conséquent, rappelez-vous, je vous ai dit, il avait rencontré Jean-Paul Mercier, au Canada. Eh bien, il va montrer à ces deux-là qu'il est un grand bandit.
En France, Elle était accusée d'association de malfaiteurs et tout. Elle avait été mise en liberté provisoire. Donc, automatiquement, en rentrant dans son pays, il y a bruit de liberté provisoire. Alors, ce que je vous demande surtout, c'est ça, maître. Vous en occupez très, très sérieusement. S'il y a tout problème qui peut se présenter, je dis qu'elle s'adresse à vous. J'ai appris pour votre client, monsieur Jean-Paul Mercier, c'est bien dommage pour lui. Ça m'a fait de la peine, bien sûr. Pas chanceux, que voulez-vous, c'est la vie. Si vous le voyez encore, donc, transmettez-lui mes amitiés. Puis s'il a besoin de quelque chose actuellement, faites-le-moi savoir.
Et oui, donc Mesrine a vraiment ce bandit au grand cœur qui va donc apparaître un peu comme, Arsène Lupin, pourquoi pas, et Robin des Bois, on va dire. Mais en réalité, il faut dire que bien il avait le culte de l'évasion. Et en 78, eh bien, toujours en prison, il va rencontrer un complice qu'il avait déjà rencontré pour des braquages précédents, voisin de cellule, hein, pas moins que François Besse, le roi de l'évasion. Et là, eh bien, Mesrine se dit qu'il ne va pas rester là en tôle bien longtemps. Il va donc concocter un plan avec François Besse. Et c'est tout simple. Il sait pertinemment que pour s'évader, il faut sortir de la cellule. Par conséquent, il va obtenir la visite de son avocate. Un surveillant est présent, puisque c'est quand même pas un gamin, Besse, hein, ni lui. Eh bien, il va demander à Besse de faire du boucan dans le couloir, agresser un gardien. Et donc, le gardien qui surveille Mesrine va dans le couloir. Pendant ce temps, Mesrine, en présence de son avocate, va monter sur la table. Il va, au plafond, ouvrir une trappe. Dans cette trappe, allez donc savoir pourquoi, il y a des cordes et il y a des armes. Et par conséquent, ce sera une évasion spectaculaire, parce qu'on pourrait croire qu'on est dans un film, mais c'est pourtant la réalité. Donc, ils vont tous deux, après il va libérer Besse, ils vont se déguiser en matons. Ils vont donc récupérer les armes, ils emmerdent les mecs, ils les foutent dans une cellule à leur place. Ils arrivent au mur, ils prennent une échelle, ils grimpent sur l'échelle. Pour ce faire, ils ont quand même auparavant fait libérer un troisième prisonnier et ils font semblant d'être deux flics qui ramènent un prisonnier. Et par conséquent, imaginez un peu le courage qu'il fallait avoir pour faire ça, parce que leur vie était en danger. Malheureusement, l'alerte est donnée, eux arrivent à se tirer, mais le troisième, lui, il va y rester, quoi. Le troisième prisonnier. C'était ça, donc, Mesrine. Donc, vous imaginez quand même un peu quel était l'état de la police par rapport à ce gars-là qui défiait toutes les lois jusqu'à présent, à part le respect qu'il avait. Et puis, il va se développer chez lui la haine. Il le dira ouvertement, j'ai la haine. Et si des policiers sont là, et s'ils sont en présence de moi, considérez qu'ils sont considérés comme morts, parce que je ne ferai aucune pitié pour eux. Et vraiment, si le premier qui dégaine, ce n'est pas moi, ce sera eux. Mais en tout dirait-il que, sachez, je n'aurai aucune pitié.
Je suis mort les armes à la main, même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué, avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut dire une chose, si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi, peut-être. Que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi. Puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera.
Et oui, donc c'est une cassette prémonitoire. Il faut savoir qu'il sait déjà qu'il est l'ennemi numéro un et que par conséquent, il va mourir un jour ou l'autre. Et donc, il laisse cette trace d'amour à sa compagne de l'époque en lui disant, eh ben, écoute, si jamais tu peux écouter cette cassette, c'est que je suis mort. Donc, l'instinct de mort fait partie de la vie de Mesrine. Et on va peut-être en arriver maintenant à l'affaire, si on peut dire Mesrine, à savoir ce qui s'est produit dans son arrestation. Parce que ça a été non pas un petit truc, mais un véritable coup monté. Parce qu'il a profité pendant bien des années de pouvoir se déguiser, parce qu'il se déguisait facilement, Mesrine. Sa compagne, la dernière, elle disait qu'elle l'avait rencontré alors qu'elle était hôtesse, on va l'appeler ainsi, dans un bar à Pigalle. Il venait pratiquement tous les soirs déguisé en plâtrier quand même, avec un bleu de travail, et il roulait en Solex. Par conséquent, rien ne l'arrêtait, à tel point qu'il avait même pris l'audace de se faire faire lui-même une fausse carte de commissaire de police au nom de Voguier et Michel, et grâce à cela, il évitera bien des contrôles, vous vous en doutez. Il s'en servira entre autres pour l'attaque du casino de Deauville, dans le fief où il y a plein de fric. Eh bien, sachez que pour faire cela, avec Besse, ils vont tout simplement être déguisés en flic, et avec sa carte de commissaire, il va aller au commissariat de Deauville pour voir l'état des lieux. il se rend compte qu'il n'y a que 6 policiers, donc tout est prêt pour le hold-up. C'était vous dire l'audace qu'avait ce garçon-là, à savoir que rien ne l'arrêtait. Et donc les flics sont excédés, parce que faire par rapport à ça? Ce sera donc la guerre des polices, il va bénéficier de ça, parce que bien sûr, il y a Broussard de l'anti-gang, mais il y a aussi Lucien Aimé Blanc de l'Office central du banditisme, qui se livre une concurrence féroce. Et pour eux, arrêter Bess et Mesrine, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour la carrière. Donc, il va bénéficier de tout ça. Mais malgré tout, eh bien, un jour du mois de novembre 79, ce sera le traquenard. Puisque, en fait, on sait par la police, ils sont renseignés, ils sont arrivés à le localiser. On sait qu'il vit dans un appartement rue Belliard, dans le 18e. Et donc, on va lui tendre vraiment un traquenard. C'est-à-dire que porte de Saint-Ouen, de Clignancourt, excusez-moi, eh bien, il est en voiture avec sa compagne et ils vont tout simplement rentrer chez eux. Et puis là, il y a des camions, il y a des voitures, il y a des piétons, il y a tout ce qu'on peut imaginer, les 15 heures cet après-midi-là. Et tous ces gens-là ne sont que des flics déguisés, en fait. C'est-à-dire que le traquenard est absolument prêt et... C'est vrai que la suite dira ce qui s'est passé, mais pour l'instant, on va écouter les témoignages de ceux qui ont été présents lors de ce phénomène-là.
Le camion, il nous est passé devant comme ça, et il a remercié. Le chauffeur a fait merci, Jacques lui a refait merci. Tout d'un coup, j'ai vu la bâche qui s'est soulevée, et ils nous ont mitraillé tout de suite.
Oui, c'était donc Sylvia Jean-Jacques, la compagne de Bess, de Mesrine, qui présente dans la voiture et qui explique qu'en fait, un camion de déménagement bâché passe devant la voiture. Elle se bloque la voiture, la bâche se soulève et là, 4 policiers, on va dire presque du GIGN, armés jusqu'aux dents, eh bien, font feu de tout bois en prétextant que... Ils avaient fait les sommations nécessaires et qu'on va dire ainsi, eh bien, ils auraient laissé le temps à Mesrine de lever les mains pour signifier qu'il ne va pas agir. La polémique viendra du fait qu'au lieu de lever les mains, 3 secondes, c'est le temps qu'on lui laisse, eh bien, il va se baisser pour, soi-disant, ramasser un sac dans lequel il y aurait eu 2 grenades défensives. C'est la version officielle de la police, mais fortement contestée par après.
Il y a 2 solutions, hein. Ou il lève les bras tout de suite et on n'en parle plus, ou il ne lève pas les bras et il était prévisible qu'arriverait ce qui est arrivé. Les instructions sont claires, ne prenez aucun risque. Mais ce sont les instructions que l'on donne chaque fois qu'il y a une interpellation dangereuse. Ne prenez pas de risque.
Ça veut dire quoi, ne prenez pas de risque?
C'est-à-dire, ne faites pas de sommation, n'hésitez pas avant de tirer. C'est-à-dire opérer comme vous opérez d'habitude face à des individus dangereux. Votre vie est plus précieuse que celle des voyous. Ne vous faites pas tuer bêtement en essayant, par exemple, de le prendre vivant.
Et oui, c'était donc ainsi qu'avait été donné les ordres du préfet de police, ne pas le prendre vivant. Ce n'était pas la peine de risquer sa vie, il n'en valait pas la peine. Et par conséquent, eh bien, lui va être carrément... foudroyé sur place. Hein. Je crois qu'on a trouvé 20 impacts de balles sur le corps. Elle aura un peu plus de chance. Elle sera grièvement blessée, mais elle s'en réchappera. Et son fils, Bruno, eh bien, dira tout simplement que son père a été assassiné, non pas comme un homme, mais comme un chien. Voilà, c'était dans l'histoire de Bess et de Mesrine, surtout Mesrine, résumée en peu de mots, mais on pourrait passer des heures à raconter l'histoire de Mesrine. Il me reste à vous dire qu'on se retrouvera la semaine prochaine avec d'autres aventures, mais tout cela, bien sûr, c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.